Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de NineNarTree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Les techniques secrètes pour investir dans l'immobilier de manière illimitée » de Maxime Bonneau est un guide pratique consacré à investissement locatif et à la recherche de capacités de financement. Les informations publiques disponibles sur cet ouvrage sont limitées. Sa présentation met cependant en avant des techniques concrètes destinées à viser le statut de rentier immobilier sans immobiliser son cash, ainsi que la forme de plan action plutôt que celle de traité théorique. Le titre indique une ambition forte, celle de rendre possible une accumulation de projets immobiliers au lieu de se limiter à une acquisition isolée. Une lecture analytique doit néanmoins distinguer une promesse éditoriale de la réalité économique. Aucun dispositif ne permet un investissement réellement illimité, sans contraintes, de revenus, de crédits, de risques et de gestion. Le livre semble donc se situer dans la catégorie des manuels opérationnels pour investisseurs particuliers, centré sur le montage, la répétition et la soutenabilité de projets immobiliers. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une promesse centrée sur la préservation du cash disponible. Le point le plus explicitement identifiable dans la présentation du livre est la volonté de développer un patrimoine immobilier sans immobiliser son cash. Cette orientation répond à une difficulté centrale de l'investissement locatif. Les fonds propres engagés au départ réduisent la liquidité disponible pour les opérations suivantes. Dans une approche patrimoniale, préserver du cash ne signifie pas éliminer tout apport ni tout coût initial. Cela signifie plutôt examiner avec précision la structure financière globale du projet, y compris le prix acquisition, les frais annexes, les travaux, la trésorerie de sécurité et le calendrier des encaissements. La pertinence de cette logique dépend de la capacité du bien à supporter ses charges et sa dette dans des hypothèses prudentes. Un projet qui mobilise peu de liquidités, mais produit une trésorerie fragile peut accroître le risque au lieu de libérer une capacité action. Le thème invite donc à considérer le cash comme une ressource stratégique distincte du patrimoine affiché sur le papier. Pour un lecteur, la valeur pratique de cette perspective réside dans une meilleure hiérarchisation des usages de ces liquidités, financer une opération, absorber un imprévu, réaliser des travaux ou conserver une marge face aux exigences bancaires. La promesse doit être lue comme une recherche de levier maîtrisé, non comme une garantie de financement sans limite. Deuxièmement, le passage de l'acquisition unique à une stratégie reproductible. La formulation de manière illimitée suggère une vision séquentielle de l'investissement immobilier. Au lieu de traiter chaque achat comme une décision isolée, un investisseur cherche à comprendre ce qui rend une opération reproductible, méthode de sélection, préparation du financement, estimation des dépenses, mise en location et suivi de la performance. Les données publiques ne permettent pas de confirmer les techniques précises exposées par Maxime Bonneau. Elles permettent toutefois de situer le livre dans une logique de développement progressif du parc locatif. La répétition exige davantage que la conclusion de plusieurs achats. Elle impose que les engagements précédents restent lisibles pour le prêteur et soutenables pour le propriétaire. Les revenus locatifs, les échéances de crédit, les vacances éventuelles et les dépenses imprévues modifient la capacité à entreprendre le projet suivant. Une méthode sérieuse doit donc produire des dossiers comparables et des décisions fondées sur des critères stables, plutôt que sur une succession de coups opportunistes. Cette dimension distingue un guide de constitution de patrimoine d'un simple manuel de recherche de bonnes affaires. Le lecteur peut en tirer une question utile: chaque opération améliore-t-elle réellement la solidité du portefeuille et la capacité future de financement, ou consomme-t-elle des ressources sans créer de marge durable? La croissance immobilière dépend de cette discipline cumulative. Troisièmement, le financement comme mécanisme, mais aussi comme limite structurelle. Le sujet du livre place nécessairement le financement au centre de l'analyse, car investir de façon répétée repose en grande partie sur la capacité à combiner dettes, revenus et fonds disponibles. Pourtant, le titre ne doit pas conduire à présenter le crédit comme une ressource automatique. Les établissements prêteurs évaluent notamment la stabilité des revenus, le niveau des charges existantes, la cohérence du projet, la qualité des garanties et le risque global du dossier. Ces critères évoluent selon la situation personnelle, le pays, les règles internes des banques et le contexte de taux. Un investisseur qui souhaite préserver son cash doit donc examiner le coût total de la dette et non seulement la possibilité d'emprunter. Une mensualité supportable durant une période favorable peut devenir plus contraignante lors de hausses des charges, de vacances locatives ou de baisses de revenus. La démarche opérationnelle annoncée par le livre peut être comprise comme une invitation à préparer les opérations avec rigueur, en documentant le bien, les loyers plausibles et les dépenses anticipées. Cela améliore la qualité de la décision, même si cela ne garantit aucune acceptation de prêt. La limite est essentielle, le levier financier amplifie aussi bien les résultats positifs que les erreurs de prix, de travaux ou de gestion. la capacité d'investir davantage demeure donc conditionnelle à une solvabilité durable. Quatrièmement, le statut de rentier immobilier exige une analyse du revenu net. La présentation commerciale associe les techniques annoncées à objectif de devenir rentier immobilier. Cette expression désigne généralement la recherche de revenus récurrents issus du patrimoine, mais elle peut masquer une distinction déterminante entre loyer encaissé et revenus réellement disponibles. Pour évaluer la contribution d'un bien à autonomie financière, il faut considérer les charges de copropriété, la fiscalité, les assurances, entretien, travaux, période sans locataire, frais de gestion et remboursement d'emprunt. Le revenu brut ne suffit donc pas à mesurer la viabilité de la stratégie. La valeur analytique d'un guide orienté vers action réside dans la nécessité de transformer une promesse de rente en prévision vérifiable. Un scénario prudent doit inclure des marges pour les aléas et éviter de confondre valorisation potentielle du bien avec liquidité immédiatement utilisable. Cette exigence devient encore plus importante dans une stratégie de multiplication des acquisitions. Une faiblesse modérée sur un logement peut se répéter sur plusieurs actifs. Le livre semble viser un public désireux de rendre investissement locatif plus actif et structuré. Le lecteur gagnera à confronter toute technique proposée à une comptabilité simple mais complète, fondée sur le revenu net, la trésorerie disponible et la capacité à faire face aux imprévus. Le statut de rentier relève ainsi de la qualité durable des flux, pas seulement du nombre de biens détenus. En dernier lieu, un plan action à compléter par une vérification locale et juridique. La présentation disponible décrit le livre comme un plan action et non comme un ouvrage de théorie. Ce positionnement est utile pour des lecteurs qui recherchent une progression concrète, mais il appelle une limite méthodologique importante. Immobilier est un domaine local prix, demande locative, règles de copropriété, fiscalité, normes de location, urbanisme et conditions de crédit ne sont pas uniformes. Une méthode générale ne dispense donc pas de vérifier les données propres à chaque opération. Le lecteur doit notamment distinguer les principes transférables, tels que la préparation budgétaire et la prudence sur la trésorerie, des décisions qui exigent une expertise locale. La rentabilité estimée dépend de loyers observables, de charges documentées et de travaux chiffrés, plutôt que de hypothèses optimistes. De même, un montage de financement doit être examiné avec les documents contractuels, et selon le cas, avec un professionnel compétent. Cette réserve ne réduit pas l'intérêt d'un format pratique. Elle précise son bon usage, un plan peut fournir une grille de travail, une liste de questions et une logique de préparation. Alors que la décision finale requiert une analyse indépendante, ce livre se distingue potentiellement par son orientation vers exécution et préservation du cash. Sa lecture sera la plus utile si elle sert à organiser une vérification disciplinée des projets, non à remplacer les contrôles économiques, fiscaux et juridiques nécessaires. En conclusion, les techniques secrètes pour investir dans l'immobilier de manière illimitée semblent destinées en priorité aux particuliers qui souhaitent dépasser une vision ponctuelle de achat locatif et réfléchir à la construction progressive d'un portefeuille. Son intérêt pratique tient au positionnement annoncé proposer des techniques concrètes orientées vers action afin de viser des revenus immobiliers tout en évitant de bloquer inutilement des liquidités. Dans une catégorie souvent partagée entre ouvrages très généraux sur la pierre et contenu purement promotionnel sur la liberté financière, cet accent sur la préservation du cash et la continuité des opérations constitue son trait distinctif apparent. Les informations publiques disponibles ne permettent toutefois pas de vérifier le détail de ces méthodes. Il convient donc de le lire comme un cadre de réflexion et de préparation, non comme une formule universelle. Le bénéfice intellectuel attendu est de relier trois dimensions parfois étudiées séparément: trésorerie personnelle, financement et revenu net locatif. Le bénéfice pratique est de pousser le lecteur à examiner si chaque acquisition renforce ou affaiblit sa capacité future d'investissement. Il conviendra particulièrement aux débutants motivés et aux investisseurs déjà propriétaires qui veulent formaliser leur démarche. Il sera moins adapté à une personne cherchant une analyse juridique ou fiscale exhaustive ou des garanties de résultats. Sa valeur dépendra de la capacité du lecteur à appliquer ses pistes avec des chiffres prudents, une connaissance de son marché local et une réserve suffisante pour absorber les risques réels de location et de crédit. Si vous souhaitez soutenir Maxime Bonnenote, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.